Un nouveau design au bout de 10 ans pour un iMac M1 de 30 pouces, deux nouveaux Mac Pro dont un serait plus petit que le G4 Cube de l'époque, deux nouveaux MacBook Pro M1 et même un nouvel écran Apple. Les rumeurs ont explosé en quelques jours et on va y revenir parce qu'elles pourraient éclairer ce à quoi cette année 2021 va ressembler pour Apple. Miner de la crypto-monnaie à l'insu de votre plein gré, ce n'est pas Richard Virenque, mais c'est Ellie qui va nous expliquer. Le tuto audio, on va vous guider pour relier l'appli Shazam à votre compte Apple Music ou Spotify. Sans oublier Vue d'ailleurs et ma maison connectée avec la suite des annonces liées à HomeKit au CES 2021. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 22. Jeudi 21 janvier 2021, bienvenue à toutes et à tous, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, Benjamin Vincent, 46e président d'iWeek, le nouveau podcast de référence sur l'écosystème Apple, à peine 4 mois d'existence, est déjà incontournable. Merci beaucoup pour vos messages et vos messages depuis l'épisode 21 notamment. Nous avons été très sensibles à vos marques de soutien. Parmi d'autres, NanoBert qui nous dit « Merci pour ces 4 mois d'actualité indépendante dans l'univers Apple. Vivement la saison 2 ». Bon, on va déjà finir la saison 1, ça va nous emmener jusqu'à l'été. Et puis merci pour vos notes 5 sur 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner. iWeek est dispo sur les principales plateformes, dont Spotify, dont on va parler tout à l'heure avec toi, Ellie, n'est-ce pas ? Salut !
Exactement. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Ravi d'être là encore une fois.
Eh ben, moi aussi, je suis ravi de te retrouver. On va donc parler du lien entre Shazam et les applis de streaming musical.
Exactement, c'est un tout petit tuto, c'est très facile à faire et parce qu'en fait on s'est rendu compte en discutant un peu avec nos amis, notre famille, que tout le monde s'est shazamé, mais après, ben, une fois qu'on a reconnu le titre, on se demande mais comment je fais pour le trouver, est-ce que je peux l'écouter, est-ce que je peux l'acheter et donc en fait c'est automatique, il suffit de savoir où cliquer.
On verra ça tout à l'heure avec toi dans le tuto audio, ce rendez-vous que le monde entier nous envie. Salut Jean-Christophe.
Salut Benjamin, salut à tous, ravi de vous retrouver.
Comment vas-tu en cette semaine d'inauguration du nouveau président américain ?
Eh bien écoute, je vais très bien. Ça fait 4 ans que j'attends ce moment, ça fait 4 ans que j'attends de redevenir fier des États-Unis et donc aujourd'hui ça va un peu mieux, tout reste à faire mais ça va mieux.
Alors tout à l'heure on va te retrouver pour Vue d'ailleurs, Jean-Christophe, l'actu US Vue des États-Unis justement, c'est pour ça que je te posais cette question, tu t'en doutes. Aujourd'hui tu veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur cette annonce qu'on a espéré être une annonce très concernante pour nous. Elle l'a été pas tant que ça en fait.
Non, pas tant que ça. Et j'ai un pied en France, un pied aux États-Unis, donc j'étais à moitié déçu. Et c'est pour l'autre moitié que je voulais faire la chronique.
Eh ben, on te retrouve tout à l'heure, Jean-Christophe, pour Vue d'ailleurs. Tu restes évidemment avec nous. Et salut François.
Salut Benjamin, salut Ellie, salut Jean-Christophe et salut à tous qui nous écoutaient actuellement, peut-être dans un transport en commun ou en train de courir parce qu'il est 18h, il faut que vous soyez à l'heure à la maison.
Absolument, et toi tu vas nous faire revenir pour une petite piqûre de rappel au CES 2021 qui s'est tenu la semaine dernière.
Bah oui, parce que la semaine dernière j'ai conclu ma chronique en disant qu'il n'y avait pas eu grand chose de nouveau, mais une fois de plus j'ai dû être médisant parce que on a vu d'autres nouveautés sortir, donc on voulait vous en parler et Ellie aura l'occasion d'évoquer un produit qui l'a particulièrement intéressé. Donc je lui ferai un joli lancement de plateau tout à l'heure.
À tout à l'heure François pour ma maison connectée, notre rendez-vous hebdo avec la domotique et HomeKit. Alors Gilles ne peut pas être avec nous cette semaine. Gilles, on te fait des grosses bises. Et sur Apple Podcast, Mikey se joint à nous en écrivant « J'attends impatiemment le retour de Gilles ». Eh bien, c'est super sympa de ta part de penser à lui. Si vous appréciez le travail que représente iWeek, la semaine Apple, le podcast, vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour nous aider à continuer iWeek, à le développer à partir d'1,50€ par épisode. Vous arrêtez quand vous voulez, mais l'important, c'est de commencer à nous soutenir. Alors, retenez bien l'adresse patreon.com/iWeek. Vous l'avez entendu, le sommaire est chargé pour un épisode que je prévois un peu plus court que d'habitude. Enfin, quand on dit ça, généralement, on se trompe. En tout cas, si vous courez, comme le disait François, en nous écoutant, eh bien, je vous conseille quand même de viser plutôt le 20 km que le marathon aujourd'hui. Allez, dans un instant, on s'intéresse à la déferlante de rumeurs. Que vaut-elle en ce début d'année ? On a l'habitude dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, de commencer par l'info de la semaine, et ça a été le cas depuis 20 épisodes, mais aujourd'hui, eh bien, ce sont les rumeurs de la semaine qui méritent la première place dans notre conducteur. Des rumeurs surprenantes tellement elles sont nombreuses et précises. Alors Jean-Christophe, je te sens déjà piaffé d'impatience. Je vais te garder pour la fin, parce que je me doute que cette déferlante ne te convient pas complètement. D'abord, Élie et François, je vous propose qu'on décortique le contenu de ces rumeurs, une par une, produit par produit. Mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question en général à tous les deux. À votre avis, pourquoi ce déferlement et pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant, en tout début d'année ? Est-ce que vous avez une explication, Élie ?
Oh, c'est peut-être la vengeance des rumeurs sur le fait que les dernières annonces Apple ont pris un peu tout le monde par surprise. Donc le M1 et les AirPods Max. Et du coup, ils ont dû... Ou alors ils s'ennuient, ils sont peut-être sous couvre-feu aussi, va savoir. Mais en tout cas, il y en a beaucoup.
François ?
Ouais, est-ce qu'on a lu...
Tu partages...
Ouais, je rejoins... Élie. Je rejoins Élie. Et puis je pense qu'il y en a un qui a balancé une info... alors je vais écorcher les noms, mais c'est pas grave. Je crois que la première info la semaine dernière a été lancée par Ming-Chi Kuo. Oui. Je le prononce bien.
C'est bien ça.
Et du coup, l'ami Gurman, qui est quand même une des références en matière de rumeurs Apple, a dû être un peu vexé de s'être fait couper l'herbe sous le pied. A dû se dire, bon allez, maintenant on balance les chevaux, on lâche tout ce qu'on sait, alors que ça aurait peut-être pu être progressif. Ce qui fait qu'en l'espace d'une journée et demie, on a quand même eu beaucoup d'infos sur les produits, ouais, qui risquaient de sortir dans les mois à venir.
Ouais. Tu veux dire qu'il y a une sorte de surenchère entre les analystes et les commentateurs, qui généralement ont quand même plutôt des trucs sous le coude ?
Ouais, je pense qu'il y a, voilà, il y en a un qui a lâché l'info, l'autre a dû être vexé, a dû dire, bah regardez, moi, ce que j'ai dans le... J'allais dire dans le slip, mais c'est presque ça.
Oh ! Dans regardez la banane
ce... Ouais, dans la banane, ouais, c'est ça.
Sac.
Regardez ce que j'ai à sortir, j'en ai plein aussi, moi.
François. Bon, alors, lequel a baissé sa braguette en premier et sur quoi ? Alors, ça a commencé par quoi ? Par les MacBook Pro ?
Ça a commencé par les MacBook Pro, logiquement, en début de jeudi ou vendredi.
Oui, c'était juste après l'épisode précédent, exactement.
Ouais,
bon, on va commencer par ça, on va prendre la chronologie, alors. Ça a donc commencé par cet ensemble de rumeurs sur de nouveaux MacBook Pro, par le fameux Ming-Chi Kuo, qui pour moi est quand même l'analyste le plus fiable quand il s'agit d'Apple.
Bah c'est un des plus fiables. Donc au niveau des MacBook Pro, j'ai envie de dire quasiment rien de nouveau à l'ouest. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on avait déjà entendues. Mais il y a quand même une ou deux nouveautés un peu, on va dire, étonnantes ou surprenantes. Déjà au niveau des tailles, à première vue, il y a un consensus pour dire que ce sera du 14 ou du 16, et du 16 pouces.
Ah,
donc
oui.
Ça...
14
à première vue,
et 16 pouces. Hein.
14 oui. Et 16 pouces. Tout le monde
avec
est d'accord là-dessus.
Avec une petite nuance.
Voilà, je sens que Jean-Christophe, déjà, j'arrive pas à le tenir. Enfin bon, Jean-Christophe, attends ton tour, ça va venir. Vas-y, Élie.
Une petite nuance, moi j'ai lu aussi 14.1 et 16.1, ce qui ne change pas grand-chose. Hein. Tout est dans la décimale.
Absolument. Alors, on va déjà lister ce qu'on sait, après on va en discuter. Donc, il y aurait deux modèles de MacBook Pro, donc des M1, on est bien d'accord, ou des M quelque chose.
Ah non, ça le processeur, on ne sait pas. Hein.
Des M quelque chose.
Oui, probablement plutôt un M2.
C'est pas de l'Intel, c'est ça que je veux
dire. Ah non, non, ça c'est sûr.
Donc probablement une génération légèrement différente, ou peut-être très différente du processeur qui est apparu au mois de novembre. Donc deux diagonales d'écran, 14-16 pouces, on va y revenir. Au niveau du design, j'ai même pas envie de dire qu'est-ce qu'on sait, mais qu'est-ce que la rumeur dit ?
Il y a deux écoles. Il y a une école design à peu près équivalent à ce qu'on a actuellement, et il y a une deuxième école qui dit un design un peu dans le même style que les iPad Pro, les derniers iPad Pro et les iPhone 12, c'est-à-dire un style un peu plus carré, enfin rectangulaire,
oui,
avec des bords plats.
Mais il y a deux écoles parce qu'il y a deux rumeurs, et on en avait un tout petit peu parlé la semaine dernière, c'est que si jamais il y a deux ou un MacBook Pro qui sortait, admettons, avant la WWDC, ou en tout cas dans la première partie de l'année. Lui serait design équivalent et lui serait probablement avec un processeur M1X. Ce que disent les autres rumeurs, en particulier notre ami Ming Chi Kuo, c'est qu'il y aurait un modèle avec un design nouveau, dont on va parler, avec un processeur plus puissant, mais qui sortirait plutôt à la fin de l'année, genre au mois de novembre, pour fêter un peu l'anniversaire du M1. Donc en fait, pourquoi deux designs ? Parce que deux rumeurs.
Et est-ce que ça veut dire deux dates de lancement aussi ?
Oui, si les deux sont vrais.
D'accord. Ok, je commence à y voir plus clair. Alors, parmi les rumeurs, justement, sur ces rumeurs, il y a la disparition de la Touch Bar qui est sérieusement envisagée.
Alors, c'est pareil, il y a deux versions. Il y a une version plus du tout de Touch Bar et il y a
c'est
une version...
C'est des rumeurs normandes, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est ça. C'est plus des rumeurs. C'est,
c'est presque ça, ouais. Et éventuellement, la Touch Bar sera en option. Alors, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un truc que c'est une, je vais pas dire que c'est une déception, mais ça fait un an et demi maintenant que j'ai un Mac avec une Touch Bar. Honnêtement, à part pester, parce que moi j'ai la version où la touche échappe et est dans la Touch Bar et le bouton Touch ID est collé à la Touch Bar, je passe plus mon temps à pester après avoir activé Siri ou pas viser la touche échappe. Pour moi, c'est une grande déception au final. Ça me sert quasiment pas.
Je crois qu'on a tous fait à peu près le même constat. Hein. C'est très joli, mais ça sert pas à grand-chose. Et ça vaut sans doute pas les 500 euros, grosso modo, de supplément de prix qui était lié à la Touch Bar.
Ce serait très bien s'ils pouvaient supprimer la Touch Bar et baisser un peu le prix.
Et baisser le prix, oui, absolument.
Ouais, absolument. Parce que quand on voit le prix des Mac, d'ailleurs. Ouais.
Quand on voit le prix des MacBook Pro 16 pouces aujourd'hui, honnêtement, c'est devenu hors de prix.
Certes, je suis d'accord avec toi. Bon, la question du prix, je pense que le prix n'est pas dans la rumeur, donc on va...
Non.
On réservera le débat sur les prix pour une prochaine. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ces deux nouveaux MacBook Pro qui seraient dans les tuyaux, Ellie ?
Bah écoute, qu'il y aura un processeur Apple, donc ça c'est sûr. Et puis l'autre rumeur très intéressante, c'est qu'il y aurait un retour du MagSafe à la demande générale du public. Et ça serait merveilleux.
Mais c'était tellement génial le MagSafe. On va rappeler que c'est ce connecteur magnétique qui évitait d'arracher la carte mère quand on se prenait les pieds dans le câble d'alimentation.
Exactement.
C'est ça.
Et puis ce qu'on a lu aussi, c'est qu'en fait, il garderait à la fois le MagSafe et on aurait quand même moyen d'alimenter le MacBook Pro avec l'USB-C. Il y aurait les deux, vraisemblablement. Et ça, c'est plutôt chouette. Je pense en particulier aux gens qui ont déjà des docks équipés avec de l'USB-C ou qui ont des écrans. Du coup, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de brancher deux connecteurs à son ordinateur. On pourrait se contenter de brancher l'USB-C. Si Apple laisse les deux, ce serait vraiment bien parce que c'est les deux, voilà. Les deux solutions idéales, je pense.
Et puis, il y a un aspect, mais alors, il fait partie de cette rumeur, mais heureusement, c'est plus de ports disponibles, parce que on a beaucoup parlé déjà ici du fait qu'il en manque et qu'il n'y en a que deux, notamment sur le MacBook Pro 13 pouces.
Oui donc là, il y en aura quatre, au moins. L'autre rumeur, parce que pareil, il y a deux écoles, encore une fois, il y en a qui disent qu'il y aura à nouveau un lecteur SD card, mais moi, j'y crois pas. Et il y en a d'autres qui disent qu'il y aura au moins la prise HDMI en sortie, ce qui peut absolument se justifier sur une machine pro. Plutôt que de passer par un dock spécial qui est une sortie HDMI. Donc ça, j'y crois un peu plus. Voilà ce que j'ai lu. Après, François, peut-être tu as eu d'autres infos.
Non, c'était exactement les mêmes. Et puis je te rejoins, je pense que si, à mon avis, l'HDMI, le port SD carte, ce serait bien, parce que c'est vrai que c'est des machines qui sont beaucoup utilisées par les professionnels de la vidéo, par exemple, et pouvoir brancher directement une carte SD sur un Mac, ce serait bien, mais j'y crois pas trop. Et l'Ethernet, on l'aura pas, parce que la prise est beaucoup trop épaisse, donc ça voudrait dire réépaissir le Mac. Et voilà, le paquet est mis chez Apple sur le Wi-Fi depuis un bout de temps, donc voilà. Et au pire, il y a les adaptateurs.
Ouais, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. En termes de design, donc, pour fermer cette parenthèse, la rumeur ne dit pas que ça va être ça pourrait être un design révolutionnaire.
Alors, non, mais il y a quand même des petites choses. Il y a des petites choses. On dit qu'il sera avec des bords très fins. Par exemple, prenons le 14 pour commencer. Le 14 pouces aurait la taille du 13, mais par contre, les bords seraient extrêmement fins au niveau de l'écran. C'est-à-dire qu'ils arriveraient à caser un 14 pouces dans la taille d'un 13. Ça, déjà, ça serait super. Le 16 reste un 16. L'autre rumeur dit qu'ils seront ultra plats et un peu avec le design des iPhone 12 et 12 Pro de cette année, c'est-à-dire sans les bords arrondis, un plus fin et plus ciselé. Un peu presque, encore une fois, comme un iPad Pro d'aujourd'hui. Un peu, on va un peu dans toute la gamme, on verra dans la suite des rumeurs tout ça, vers ce type de design-là, très plat, très affûté.
Comme bon, nous.
Bah, ouais, comme c'est nous. Ça, voilà. Surtout en ce moment-là. On fait beaucoup d'exercices, c'est l'hiver, c'est le couvre-feu, c'est parfait. Ok, donc voilà pour les MacBook Pro, les éventuels nouveaux MacBook Pro, 14 et ou 16 pouces, mais probablement plutôt et 16 pouces. Deuxième grosse rumeur, alors là on change de source, hein, puisque c'est le fameux Mark Gurman hein, qui l'a sorti, elle concerne le nouvel iMac qu'on attend depuis si longtemps, et toi notamment François. Qu'est-ce qu'elle dit cette rumeur ?
Bon, on retrouve des choses qui avaient déjà été évoquées. Comme il y a une grosse incertitude à mon avis, c'est sur la question de la taille. Parce qu'on a quand même beaucoup évoqué il y a 6, 5, 4 mois comme quoi le fait qu'un des premiers Mac M1 serait un iMac 24 pouces. C'est pas si clair que ça. Est-ce que le 27 pouces restera dans la gamme? 24 et 27, ça risque d'être assez proche, donc on aura peut-être un 30 pouces. La taille, je pense que la vraie incertitude, c'est vraiment la taille. Sur le design, je pense qu'on est, tous d'accord, et les rumeurs le disent, on va passer sur un design qui ressemblera beaucoup au fameux Apple XDR, la Pro Display. C'est Pro Display XDR, c'est ça, Eli, si je me trompe pas.
Exact.
C'est ça.
Avec des bords affûtés, voilà, un design qui pour moi est vraiment très très réussi.
Bon, en espérant que le pied ne coûtera pas 1000 euros quand même, hein. Parce que sinon,
bah oui.
Et puis pour compléter effectivement, tout est une histoire de taille, on va pas reprendre le proverbe, mais tu sais bien François que ce n'est pas la taille du Mac qui compte, mais la façon dont on s'en sert, pour rebondir sur vieil adage.
Et juste en termes de diagonale d'écran, 24 et 30 pouces par rapport à la concurrence, à ce que fait le monde Windows.
On est dans ces eaux-là à peu près, je pense.
Oui.
Ouais, il n'y a pas plus grand que 30 pouces en face.
En tout en un, je ne suis pas convaincu. Il y a peut-être du 32, non. Mais à mon avis, ça ne monte pas au-dessus de 32.
D'accord. En tout cas, ce serait le premier changement de design depuis plus de 10 ans.
Oh oui.
Alors notre ami Gilles serait là, il nous ressortirait son laïus habituel sur le design
oui.
qui n'a pas changé.
Ouais, on lui fait une dédicace. Ouais.
Je pense que le design plat comme ça avec le dos bombé hyper fin sans lecteur de DVD, ça doit dater de quoi, 2012, Élie, je pense.
Oh, écoute, je sais pas, mais c'est tellement vieux que j'ai déjà oublié.
Non, et puis il a vraiment vieilli le design quand même.
Ouais, en tout cas, cet iMac qui serait lui aussi sur les rails. De toute façon. On va quand même ramener ces rumeurs à leur juste valeur et à leur juste intérêt. On sait que ce renouvellement de gamme, il arrive. Donc, c'est pas non plus l'info du siècle. Mais voilà, il y a des éléments de réflexion, en tout cas, qui sont intéressants. Et puis, oui, la grande question, c'est quand, dans quel ordre. Et là-dessus, il n'y a pas d'indication dans les rumeurs qui sont sorties.
Bah non, parce que ça dépend du processeur.
C'est tellement vaste que ça veut rien dire, en fait.
Je crois qu'ils ont pris l'ensemble de la gamme Apple et ils ont dit, bon, comment elle peut évoluer? Donc, ils ont pris chacun des produits, ils ont dit, bah, tiens, celui-là, il va faire ci, celui-là va faire ça. Bon, ça, c'est même pas de la rumeur, c'est tellement vague que c'est de la prédiction, on aurait tous pu dire la même chose, sans être des analystes. Mais, ça va dépendre du processeur, la date de sortie, parce que si on se contente d'un M1X ou si le M1X est suffisamment puissant pour ces machines, en principe pro, déjà dans la catégorie des MacBooks, ben ça pourrait sortir peut-être en milieu d'année. Si on attend un vrai M2, c'est-à-dire carrément une génération nouvelle, ben ça sortirait plutôt vers la fin de l'année.
Ça va faire long la fin de l'année, je pense.
On est toujours pressé. Alors, le dénommé Gurman a sorti deux autres rumeurs. La première, enfin, elles sont toutes les deux
liées l'une à l'autre au final.
Oui, liées l'une à l'autre et finalement assez surprenantes pour le coup. Alors, la première concerne le Mac Pro, ou plutôt les Mac Pro, c'est ça qu'il va falloir dire peut-être. Je voulais nous dire à quoi ça peut ressembler parce que c'est assez étonnant quand même.
Bah, ce qu'on a lu, c'est que Apple travaillerait sur un Mac Pro qu'ils appellent half size, c'est-à-dire qu'il ferait grosso modo un des modèles, la moitié du modèle actuel, donc plus petit, plus compact. Et carrément, après, il y a eu une autre rumeur en disant qu'il y en aurait un vraiment petit. Donc un peu pour revenir, si c'est vrai, au design de l'ancien cube Apple, qui était, rappelez-vous, un des ordinateurs préférés de Steve et où il n'a jamais accepté que ce modèle ne marche pas. Je pense qu'il a dû en vouloir à tous les utilisateurs Apple de la Terre de ne pas l'avoir cru et de ne pas avoir acheté ce produit. Moi, j'en ai encore un dans notre musée. C'était un ordinateur fabuleux, avec des défauts, mais le design était fabuleux.
Et je pense qu'il y a la place en plus pour un petit Mac Pro. Alors en fait, la rumeur, pour synthétiser, elle évoque aussi le fait qu'il y ait une mise à jour du Mac Pro actuel, du gros modèle, du camion avec des processeurs Intel. Apple avait bien précisé que la migration se ferait sur 2 ans. Oui. Donc est-ce qu'ils vont pas faire un petit upgrade du grand Mac Pro et en parallèle sortir un petit Mac Pro qui... Pour moi, il y a la place dans la gamme, en fait, tout bêtement. Le Mac Mini qui est sorti au mois de décembre, je vous rappelle qu'il est en couleur argentée, alors que l'ancien Mac Mini, le dernier Mac Mini Intel, qui est toujours au catalogue d'ailleurs, avait une couleur gris sidéral. Je pense qu'on a la place pour avoir un Mac Mini un peu plus performant. Pour des gens qui sont des professionnels, par exemple, de la photo ou de la vidéo, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un Mac Pro à 7 ou 8 000 euros, mais qui ont besoin d'une machine relativement performante. Donc une gamme avec 3 machines, un Mac Mini pour vraiment ceux qui ont, voilà, pour des familles qui ont juste besoin d'un petit ordinateur, un Mac Pro Lite pour les utilisateurs un peu plus gourmands, et le gros Mac Pro pour vraiment les studios de cinéma et les YouTubers qui ont les moyens.
Et qui dit d'ailleurs Mac Pro milieu de gamme, dit peut-être écran milieu de gamme, pour finir la rumeur.
Voilà, très belle transition, Ellie, parce que c'est l'autre information, enfin non, bien dit Ellie, belle transition Ellie, puisque c'est l'autre rumeur effectivement avancée par Gurman, c'est l'arrivée prochaine d'un nouvel écran qui serait en fait le successeur du Thunderbolt Display.
Ça serait tellement bien, parce qu'aujourd'hui, on rêve tous de cet écran Pro XDR. La seule chose, c'est qu'à plus de 5000 euros, et sans compter les petits accessoires, on le regarde avec envie, mais tout le monde ne peut pas se l'acheter. Alors que je vous rappelle que le Thunderbolt Display, c'était un écran aux environs de 1000 euros. Donc c'est...
Ce qui est quand même un budget aussi. Hein.
Ce qui est un budget, mais c'est quand même 5 fois moins.
Ouais. Et puis quand on voit le prix des écrans a beaucoup évolué depuis aussi. Hein.
Oui.
Quand on voit le prix des écrans aujourd'hui, ça choque personne aujourd'hui d'acheter un écran 4K d'ordinateur haut de gamme pour 1000-1500 euros. Hein. Clairement. Donc oui, s'ils sortent un écran à ce prix-là, à mon avis, ça va avoir un succès fou. Vraiment un succès fou pour les gens qui n'ont pas envie d'iMac, tout bêtement. Hein. Il y a un public qui veut changer régulièrement d'ordinateur. C'est vrai que le gros inconvénient de l'iMac, c'est que si vous mettez 4 ou 5 000 euros dedans, bah, quand vous voulez changer la partie composant, le faire évoluer, vous êtes obligé de revendre l'ordinateur en lui-même. D'où l'intérêt d'une gamme d'écrans, comme pour le Mac Pro, finalement, à deux niveaux. Un niveau raisonnable avec des gros guillemets et un niveau supérieur.
Et là, on n'a pas de date non plus hein, sur l'arrivée de cet éventuel nouvel écran Apple.
Non, parce que c'est la première fois qu'on en entend parler cette semaine. Pour les autres produits dont on a parlé, il y avait déjà eu 5-6 rumeurs plus ou moins vagues. L'écran, c'est vraiment la première fois qu'on l'entend.
Absolument. Bon, Jean-Christophe, tu as écouté religieusement tout ce qu'on vient de dire. Et je crois que tu as, toi aussi, des choses à partager avec nous sur cette avalanche de rumeurs de ce début d'année.
Bah alors, on va pas revenir sur le principe de la rumeur. J'ai déjà dit ce que j'avais à en dire. Je dis qu'on va pas y revenir et j'y reviens. Je trouve que ça gâche le jeu. Je trouve vraiment que c'est dommage et que j'espère qu'un jour Apple retrouvera le moyen de nous faire rêver. Moi j'aime bien les tours de magie et j'aime pas savoir comment le lapin est arrivé dans le chapeau. Ça c'est le premier point. Sur les machines en tant que telles, enfin on reparle de mon fameux MacBook Pro 16 pouces. Donc
Tu souris.
Donc je suis je souris. J'ai recommencé à économiser. Il y a un petit cochon avec écrit MacBook Pro 16 sur mon bureau pour être prêt le moment venu. Après, je si les rumeurs sont vraies et effectivement Kuo est en général tellement bien informé que on est obligé de penser qu'elles le sont. Encore une fois, je redis ce que j'ai déjà dit. Je comprends pas la stratégie d'Apple. Sortir un 14 pouces quelques mois après avoir sorti un 13 pouces, d'une part, sortir un 14 pouces et un 16 pouces, si c'est vrai, au troisième trimestre, c'est-à-dire en septembre, pourquoi si tard ? Enfin voilà, il y a tout un... Je comprends pas, mais après tout, j'ai pas à comprendre, mais je continuerai à le dire. Je comprends pas pourquoi les designs, par exemple, des MacBooks, sont pas prêts depuis des mois, sachant qu'en fait, il ne restait que le processeur à mettre dedans. Contrairement à ce qu'on a dit sur... à ce qui était le cas, d'ailleurs, sur les machines Intel. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. Mais bon, si on sera ravis, justement, de voir ce qu'Apple va avoir mis tant de temps à créer. Peut-être qu'effectivement, ça va être quelque chose d'incroyable. On sait qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les webcams. Est-ce que ça sera pour intégrer Face ID ? Est-ce qu'on aura vraiment une vraie disruption ? J'espère, parce qu'Apple s'en donne le temps. J'espère vraiment que ce sera le cas. Sur l'iMac et sur le moniteur, là aussi, en termes de disruption, on en parlait il y a quelques semaines. Si vraiment la dalle reste à 27 pouces, je serais extrêmement extrêmement déçu et pour ne pas dire choqué, parce que je pense que ça montrerait qu'Apple est pas à l'écoute du marché. J'ai aidé ma grande sœur il y a quelques jours à acheter un moniteur comme compagnon de son MacBook Air. Quand on voit les prix et les dalles qu'on trouve sur n'importe quel marchand, il est bien évident qu'un 27 pouces serait dépassé. Pour l'anecdote, certains spécialistes du recyclage vendent encore un Apple Display LED Thunderbolt 27 pouces 500 €. Ça montre à quel point à la fois Apple a marqué les choses sur ses périphériques et en même temps a besoin, à mon sens, de changer de génération. Et donc j'attendrai ce produit avec intérêt. Pour l'anecdote, là encore, j'ai certains collègues qui utilisent je sais même pas comment ça s'appelle, mais le fameux moniteur à 6000. Parce qu'on est voilà,
le Pro Display XDR.
Voilà, Pro Display XDR. Notre directeur financier utilise un Pro Display XDR parce que c'est bien de se fournir chez Apple. Je pense qu'on sera tous contents de pouvoir acheter un bon moniteur Apple pour un peu moins cher. Voilà, donc j'attends, je suis impatient, mais pour moi Apple a beaucoup à prouver et beaucoup à se faire pardonner.
Ouais. Juste revenons sur la future cohabitation possible entre un MacBook Pro 13 et un MacBook Pro 14. Est-ce que pour toi, la sortie du 14 va enterrer le 13 ? Comment tu vois les choses évoluer ?
C'est en ça que je dis que je ne comprends pas la gamme. Jason Snell, qu'on connaît bien, qui collabore à Macworld, publié une chronique il y a quelques jours. Pourquoi un MacBook M1 ferait sens ? Et moi, c'est la machine que j'aurais voulu acheter, c'est la machine qui me manque. Le MacBook Air 13 reste plus lourd que le MacBook Air 11 pouces que j'aimais tant. Le MacBook Pro 13 pourrait faire office de MacBook Pro d'entrée de gamme, mais il est très proche du MacBook Air qui reste l'entrée de gamme. Je vois pas. Est-ce que ce serait faire un 14 pouces beaucoup plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces? Et à ce moment-là, on dirait, ah, c'est la machine pro, alors que le MacBook
et avec
Pro
4
13 pouces, voilà, avec 4 ports, alors que le Pro 13 pouces est pour ce qu'on appelle les prosumers. Il va falloir la gamme, elle va vraiment se donner du mal. Je pense qu'on va être au dollar près quand on connaît l'étiage habituel chez Apple. Je comprends pas. Mais encore une fois, on participe à la rumeur avec cette discussion. Donc attendons de voir. J'espère qu'on sera tous super impressionnés et qu'on dira la gamme est redevenue lisible. C'est nous qui étions impatients. Aujourd'hui, oui, la réponse à ta question, c'est j'en sais rien, c'est la pagaille.
Est-ce que tu as l'impression du coup que les modèles, enfin les Mac M1, peut-être à l'exception du Mac Mini annoncé à la fin de l'année, vont avoir une durée de vie assez courte finalement et sont juste la première salve avant que peut-être la vraie nouvelle génération de MacBook Pro notamment débarque dans la deuxième partie de l'année?
Très nettement. Très nettement, bien évidemment. Je vais pas refaire le coup de l'iPad Pro avec LiDAR, mais à mon avis, on est dans cette notion-là. C'est des machines qui ont reconnu, à mon sens, moins d'un an. Alors, pas de vie, hein, c'est des machines qu'on utilisera pendant plusieurs années, mais effectivement, moins d'un an sous les projecteurs. C'est pas une première. On se souvient que les anciens... Alors, François fait plus cette très belle chronique que j'aimais tant, mais les anciens se souviendront qu'il y a eu deux PowerBook G3. Il y a eu un PowerBook G3 qui était un PowerBook 3400 avec un G3 à l'intérieur, tout moche, tout vieux, et reprenant le design des cinq années précédentes, remplacé 8 mois plus tard, il me semble, par le vrai PowerBook G3 qui était Wall Street et qui inaugurait justement ce design Ive Jobs qui préfigurait lui aussi l'iMac. Donc ça s'est déjà vu. Ça me semble une erreur, ça me semble une indélicatesse auprès des early adopters. Évidemment, Apple s'en fiche. Évidemment, je vais acheter et garder cette fois un Mac M1. Je les ai tous utilisés. Je pense que je vais acheter un MacBook Air parce que justement, à mon sens, c'est celui qui souffrira le moins du remplacement et la comparaison avec le 16 pouces dont j'ai besoin et que j'achèterai quand il sera disponible. Je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir acheter deux Macs dans l'année, et même ceux qui peuvent, comme moi, râlent. Donc là, voilà, rendez-nous le carré magique avec des processeurs M quelque chose dedans.
Et tant qu'on en parle, Jean-Christophe, tu viens d'avoir un souci avec ton Mac Mini M1, c'est ça? Tu peux nous raconter ce qui t'arrive?
Oui, alors je... C'est difficile à raconter. Mais le premier souci, c'est que j'ai pas l'habitude de n'avoir plus qu'un seul écran et un écran externe. Et alors, j'ai que 8 gigas dans le Mac Mini. Il se trouve que le problème, c'est que la gestion de la mémoire est tellement bien faite et le M1 est tellement rapide qu'on a tendance à ouvrir plein d'applications. Et que quand il y a plus de place, pour le coup, macOS, j'ai oublié son nom, Big Sur. Se mélange un peu les pinceaux. Il dit j'ai plus de RAM, il faut quitter des applications. Ça arrivait avant, mais j'ai l'impression que sur Intel ça se passait mieux. On pouvait plus facilement il reprenait plus facilement son souffle quand on quitte les applications. Moi avec les Mac M1, à chaque fois je dois redémarrer. Donc ça c'est le premier problème. Parce que j'ai pas l'habitude de devoir redémarrer un Mac. Le deuxième problème, c'est que mon écran, qui est un écran très bien et en USB-C, là, ne s'est pas réveillé quand j'ai redémarré le Mac Mini. Et quand on a qu'un seul écran et que l'écran reste noir, c'est compliqué de savoir si ça vient du Mac, de l'écran, du clavier et du trackpad Bluetooth qui ont pas réagi parce qu'ils sont en Bluetooth. Il faut rebrancher un câble Lightning en USB. Voilà, il faut voir si le verrouillage majuscule est allumé pour voir si ça fonctionne. Enfin voilà, c'est des soucis qu'on n'avait pas avant, c'est des soucis que je suis peut-être le seul à avoir, mais c'est cette idée, la transition du Mac M1, elle se passe aussi bien que possible, et on l'a dit et je le répète, et pourquoi je cherche à racheter le bon Mac M1, c'est parce que repasser sur Intel, c'est une torture, mais... le podcast, là les amis, je le fais sur le Mac Intel, parce que au moment où je vous parle, le Mac Mini... Il est toujours aux fraises et je sais pas comment je vais réussir à de nouveau m'en servir. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, si on est un peu moins early adopter qu'un podcaster iWeek ou que même les auditeurs d'iWeek, peut-être que c'est bien d'attendre. D'une part parce que là on essuie les plâtres, c'est très clair. D'autre part parce qu'effectivement, on pense tous que en septembre ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, on aura une vraie gamme à utiliser. Et effectivement, si on peut attendre, c'est peut-être pas mal.
Bon voilà, si on peut attendre avant de passer au Mac M1, finalement, c'est pas mal selon toi, Jean-Christophe. Est-ce que vous, Élie et François, est-ce que vous avez rencontré des soucis avec vos Mac M1 maintenant que vous avez le recul de plusieurs semaines avec Élie?
Bah écoute, non, enfin oui et non, parce que au début on a été un peu pionnier, on en a parlé. Depuis, on en a quand même vendu un paquet. Hein, ouais. Sur la fin de l'année, début de 2021, on en a livré des palettes et des palettes.
On va rappeler Eli, que tu es le cofondateur du groupe MCS. Donc c'est quatre Apple Premium Reseller dans le sud de la France, et tu fais ça depuis plusieurs dizaines d'années. Donc 40. Voilà, tu es en contact direct avec les clients, enfin qui achètent des produits Apple. Donc tu as cette expertise là.
Oui, et j'ai en plus dans mes fonctions, je m'occupe de tout ce qui est technique dans la société. Tu vois, je ne suis pas le financier. Hein, j'ai un frère et associé qui est très fort pour ça. Et donc moi, par contre, je m'occupe de ce qui est technique. Donc dès qu'il y a un retour, et surtout sur des nouvelles machines qui arrivent au service technique ou que les gens nous appellent, à un moment donné, ça remonte vers moi parce qu'ils viennent me poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut régler, etc. Donc, je ne dis pas qu'il y a zéro problème, mais il y en a très peu. Parce que, encore une fois, les utilisateurs font des choses relativement basiques, en fait, hein, avec ces ordinateurs. Ils sont très contents parce qu'ils sont plus rapides, mais ce ne sont pas tous des power users. Donc, dans une utilisation normale, honnêtement, ça se passe bien. Les soucis qu'on a eus, c'est quand il faut réinstaller le système. Rappelez-vous, voilà. Au début, on avait eu ça. Mais maintenant, ça y est, il y a deux choses qui sont intervenues, oui, qui sont positives. La première, c'est que nos équipes techniques ont fini par trouver la façon de restaurer un Mac M1 en quelques minutes. Donc, il y a une procédure, il faut deux ordinateurs, il faut le câble qu'il faut, il faut le port qu'il faut, et il y a un timing pour appuyer sur des touches vraiment digne d'un chronomètre atomique, presque. Mais une fois qu'on sait le faire et qu'on a pris le coup de main, c'est comme quand on met un iPhone en DFU. Hein, la première fois, on galère. Et puis, quand on a l'habitude, on y arrive. Puisque là, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir restaurer un Mac M1, il faut le mettre en DFU. Le DFU existe maintenant dans cette gamme-là aussi. Et une fois qu'il est en DFU, bah écoute, en 4 à 6 minutes, on réinstalle un système.
Pas mal. Donc, on peut rappeler ce que c'est que le DFU ?
Oui, pardon. C'est Default Factory LEU, je ne me rappelle même plus. Et en fait, on le met comme s'il sortait du... Enfin, comme s'il était en usine pour l'installation du système.
C'est ça.
Il est vierge.
Voilà. Exactement. Donc, évidemment, il vaut mieux avoir des backups. Hein. On n'insistera jamais vraiment assez parce que dans tous ces process, que ce soit chez nous ou chez Apple, on efface le contenu du disque. Hein. Donc, il vaut mieux avoir un backup. Donc ça marche bien. Et puis Apple a fini, je crois qu'on l'avait dit dans une des émissions, par réparer le bug qu'il y avait sur le Internet Recovery. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas de Mac, que vous n'êtes pas un centre de service avec des techniciens rompus à toutes les astuces Apple, on peut, en appuyant sur une combinaison de touches, redémarrer sur la partition Recovery dont on avait parlé et réinstaller le système à partir d'Internet. Donc ça ne marchait pas au début. Tout simplement parce qu'Apple a fini par reconnaître qu'il y avait un bug qui fait que l'installation Internet essayait de pousser en fait Catalina, ce qui sur un Mac M1, dès le début, ça marchait vraiment pas.
Ah oui.
Alors que maintenant, ça pousse Big Sur et du coup, ça marche.
D'accord.
Petit bug, Catalina, si tu veux. Hein.
Catalina n'étant pas compatible avec le processeur M1, vous le savez désormais. François, quel est ton retour, toi, sur les Mac M1 que tu as entre les mains? Est-ce que tu as eu des soucis comparables à ce que Jean-Christophe expérimente là depuis ce matin ?
Je vais être très honnête, je n'ai pas eu l'occasion de le pousser encore dans ses retranchements. Fait partie des choses qui sont sur le feu depuis 2 mois. Vu les conditions actuelles que vous connaissez tous, je n'ai pas eu beaucoup de temps, hélas, à consacrer à la découverte du Mac M1. Maintenant, le peu de temps que j'ai utilisé, je l'ai trouvé... Ouais, c'est ça, courant distanciel, mais les courants distanciels, je les fais pas avec le Mac M1, je les fais avec mon portable habituel, parce que j'ai tous mes docs dessus, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de bugs ou de retours négatifs. Maintenant, ça va être l'objectif de la fin d'hiver, c'est de réussir à les tester, à le pousser dans le retranchement pour voir comment ça fonctionne, parce que y aura bien un moment où on risque de passer à du matériel M1 en salle informatique, par exemple, si Apple se décide à nous pondre des iMac M1,
exactement,
ou M1X, ou M2.
Ou M2. Et moi, j'ai le même problème que François, c'est-à-dire que là, je n'ai pas de, de Mac M1 pour faire des tests, hein, sinon je le pousserais vraiment à fond. J'ai les machines du showroom, j'en ai quatre hein, de M1 dans le showroom, plus le Mac Mini. Le problème, c'est que, comme je vous avais raconté une fois, Apple les a totalement verrouillés, c'est-à-dire qu'il y a deux comptes dedans, un qui s'appelle User, un qui s'appelle Admin, mais c'est Apple qui les a installés et ils ne nous donnent pas les mots de passe. Donc, de toute façon, on ne peut pas rentrer dans la machine. Donc...
Mais la dernière chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit tout, quasiment, je ne vais pas dire chaque jour, mais quotidiennement, il y a des applications qui sont optimisées. Je vois la suite Adobe est quasiment au complet maintenant optimisée Mac M1. La suite Office aussi. On sent vraiment que ça... Voilà. La transition a été quand même beaucoup, beaucoup plus rapide que la transition pour passer des processeurs PPC à Intel, ce qui est quand même très, très positif. Et puis, je pense qu'on va être agréablement surpris par les ventes de portables et surtout de portables d'ailleurs de MacBook quand Apple va annoncer ses chiffres du premier trimestre, si je dis pas de bêtises, que normalement c'est le premier trimestre qui va se terminer bientôt.
François, tu as totalement raison. Le 27 janvier, Apple va annoncer les résultats Q1, puisque c'est le trimestre qui s'est fini le 30 décembre, bien entendu. Nous sommes en Q2 parce qu'on vit au jour le jour, mais Apple donne les résultats du trimestre qui s'est déjà écoulé.
Voilà. Et à mon avis, ça va être faramineux.
Ouais. Et donc, c'est la semaine prochaine, ce sera la veille du prochain numéro d'iWeek. Donc, vous aurez toutes les infos sur ces résultats la semaine prochaine.
En espérant que Gilles sera là, car vous savez que Gilles, c'est notre spécialiste en analyse financière. Hein.
Oui, on y croit.
On prévoira 3 heures, par contre, je pense.
On compte sur toi. On compte sur toi, Gilles, pour être avec nous. Voilà pour les rumeurs qui concernaient le Mac. Il y a une dernière rumeur, c'était pas fini, qui concerne cette fois l'iPhone 13. Gurman, encore lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur prochaine génération d'iPhone ?
Il nous dit pas grand-chose. Je pense qu'on va vraiment avoir une génération S. Il y aura pas beaucoup, beaucoup d'évolution dans la mesure où on a quand même eu un gros changement de design sur les derniers iPhone. On a eu quand même l'instauration d'un format mini. Il y a les 4 modèles. Je pense que la gamme est bien installée. Un des trucs qui est évoqué, ce serait vraiment bien, c'est un capteur Touch ID sous l'écran. Alors j'espère que d'ici la sortie de l'iPhone 12S ou 13, on aura le droit d'enlever son masque au quotidien. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on peste tous avec deux masques. J'ai pas dit le mot parce qu'il faut pas le dire, mais et avoir un Touch ID sous l'écran, honnêtement, ce serait hyper appréciable aujourd'hui. Donc si Apple pouvait se décider à l'implémenter, ce serait plutôt cool. Et on a aussi revu des rumeurs par rapport à l'iPhone pliable. Visiblement, il y a toujours des produits en test, mais je pense que voilà, on a encore au minimum 1 voire 2 ans avant de les voir sortis.
Parce qu'Apple travaillerait sur la charnière, enfin sur l'articulation de cet écran qui se plierait en deux ou qui s'enroulerait, enfin on ne sait pas.
Mais qui ne serait pas de toute façon pour le 13. Hein. C'est dans un futur plus lointain. Et il y a eu une autre rumeur qui est sortie après, hein, donc, que j'ai lue juste avant le début de l'émission, qui dit que, en fait, Apple étendrait au reste de la gamme
LiDAR.
Pas le LiDAR, puisque là, il y est déjà sur une bonne partie. Non, le système de stabilisation optique qu'il y a dans le Pro Max serait étendu au reste de la gamme, ou peut-être au reste de la gamme Pro.
Mais ce qui avait été évoqué quand c'est sorti, hein. Beaucoup ont dit que l'iPhone Pro Max, 12 Pro Max, était un peu le laboratoire de test des futurs technos.
Et puis, on est quasiment certain que ça fera enfin du 120 Hz. Je dis enfin, je ne sais pas si on en a besoin, mais comme tout le monde l'attendait pour le 12, je pense qu'on aura du 120 Hz dans le 13. Donc voilà, c'est des petites évolutions, mais qu'on attendait quand même.
Bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour des rumeurs de ce début d'année qui sont arrivées, mais vraiment sous la forme d'un tir à la mitraillette ?
Ah ben non, parce que...
Ah mais pour aujourd'hui, je veux dire.
Ah oui, mais non. Parce que, non, c'est juste une boutade pour finir, parce que évidemment, tous les jours, on a droit à 4 rumeurs sur l'Apple Car. Donc, et là, par exemple, Hyundai a été démenti sous la pression d'Apple. ils ont reconnu qu'ils étaient en pourparlers avec Apple, mais ils n'ont pas dit sur quoi. Mais du coup, la rumeur est sortie. Ah bon, ben c'est plus Hyundai. Non, parce qu'en fait, Hyundai a prévu de sous-traiter la fabrication à Kia. Ah ben d'accord, c'est donc...
C'est le même groupe.
Donc ça, c'est la rumeur du jour, de la semaine. Sans parler des Apple Glass, car il y a toujours quelqu'un qui a vu un nouveau prototype d'Apple Glass que bientôt, en 2021, on va voir quelque chose, mais c'est pas sûr, mais certainement. Donc voilà, avec ça, on a fait le tour.
On a fait le tour. Bon, et je crois qu'Élie, tu voulais nous parler d'une vraie info pour le coup.
Oui, alors là, c'est une info qui pour l'instant n'est pas confirmée par Apple officiellement, mais qui a été évoquée par des confrères. Mais moi, j'ai eu la confirmation par un utilisateur donc, qui utilise ce programme Apple qui s'appelle Joint Venture, qui est en fait une sorte de contrat de maintenance payant pour les entreprises, hein, donc c'est vraiment destiné au B2B, et qui permet d'avoir un certain nombre d'avantages, contre paiement bien sûr, c'est-à-dire un accès prioritaire plutôt que de faire la queue pour voir un spécialiste Apple, un technicien, etc., un rendez-vous qui est quasiment instantané, qui permet d'avoir un équipement en prêt en cas de problème. Donc tout ça s'adresse vraiment aux professionnels. Apple, bizarrement, a une énorme emphase sur le développement des ventes en B2B. Et c'est très bizarre qu'en même temps, ils disent il faut vendre de plus en plus aux entreprises, mais on supprime le contrat de maintenance qu'on a fabriqué spécialement pour eux. Donc, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui, aujourd'hui, a un contrat comme ça. Et la dernière fois qu'il est allé dans un Apple Store, ils lui ont dit oui, mais c'est quelque chose qui va s'arrêter. Apple, évidemment, remboursera au prorata de l'utilisation tous les clients, donc je me fais aucun souci là-dessus, qui l'ont pris. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les clients professionnels, c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il n'y a qu'Apple qui fait ce contrat de joint venture, nous on ne peut pas le faire, et donc évidemment, comme il y a énormément de services à un prix raisonnable, ça nous pique, entre guillemets, une partie de notre clientèle professionnelle qu'on a toujours eue. Donc c'est peut-être une bonne chose pour les APR, mais c'est une mauvaise chose pour les clients en général, si ça se confirme. Voilà.
Bon, on va suivre ça dans les jours qui viennent, évidemment. Merci les garçons, on va marquer une pause et on va passer à table avec toi, Élie. C'est tout nouveau, c'est le rendez-vous avec la veille techno avec toi, Élie. Rendez-vous qui a évolué la semaine dernière. On est passé à table et tu veux rééditer l'expérience, Élie.
Ben oui, écoute, j'ai été tenté et donc je vais continuer à faire mes petites recettes de cuisine technologique jusqu'à arriver, j'ai plusieurs étapes. Hein. D'abord, je veux être le Cyril Lignac de la techno, oui, ce qui est déjà ambitieux, avant d'arriver peut-être un jour à l'Alain Ducasse.
Donc... Oula. Ou le Guy Savoie peut-être.
Ouais, peut-être. Mais oui, soyons ambitieux. Non.
Tu as raison.
Pour l'instant, on va démarrer très modeste, hein, très modeste. Donc, alors
bon, on se met à table. Qu'est-ce qu'on a pour l'entrée, ouais?
Ben, en entrée, cette fois-ci, c'est une info assez cocasse. On a su, en fait, récemment, et ça a été repris par plusieurs de nos confrères, qu'il y a en fait une sorte de malware qui permet de miner de la crypto-monnaie. Vous savez, miner de la crypto-monnaie, ça veut dire qu'il y a une tâche qui s'installe dans un ordinateur. Généralement, les gens qui le font de façon volontaire. Et ça permet de travailler en tâche de fond, une sorte de chaîne universelle. C'est du travail coopératif à très, très grande échelle. Et c'est ce qui donne la valeur, en fait, au Bitcoin, auquel moi, je ne crois pas du tout, vous le savez. Mais bon, à la crypto-monnaie en général. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont téléchargé des versions pirate, très mal, d'Office, Microsoft Office, pirate. En fait, il y a un malware dans l'installeur. Pas dans Office, parce que sinon, je pense que Microsoft s'en serait aperçu. Mais dans le petit logiciel qui installe, qui a des scripts qui vont installer tous les logiciels Office, etc. Ben, il y a un petit malin qui aurait installé un petit script, donc d'où la puissance d'Apple Script, hein, qui est passé totalement inaperçu. Parce que même si vous regardez l'installeur, à un moment donné, ça lance un Apple Script. Si vous êtes vraiment très méfiant, vous allez regarder cet Apple Script. Et cet Apple Script lance un fichier, un deuxième Apple Script. Qui lance un fichier qui est le malware. Donc, bon. Et,
ouais. Et donc, en fait, votre Mac va travailler pour des pirates, une sorte de zombie, quoi, comme on dit.
il va travailler pour les gens qui effectivement valorisent la crypto-monnaie et gagnent des sommes confondantes avec ça et qui ne peuvent le faire qu'avec des ordinateurs partout dans le monde. Et si votre ordinateur ralentit, si vous voyez passer du trafic sur Internet, si votre processeur s'affole, et si vous avez une version pirate de Office, il vaut mieux s'inquiéter parce qu'il paraît, d'après les informations, que ça fonctionne comme ça depuis 5 ans. Et personne ne s'en était aperçu.
D'accord. Super. Ça me coupe l'appétit, tu vois. Donc ton dîner, c'est mal barré. Hein.
Mais bon, pourquoi ? Parce que c'est des gens de Office qui nous ont piqué notre recette.
Il faut avoir un Office piraté déjà.
Voilà.
Et on n'encourage évidemment pas le piratage.
C'est vrai.
On peut peut-être passer au plat de résistance parce que l'entrée, elle me reste un peu en travers de la gorge, là, Ellie.
Allez, passons au plat de résistance. Le plat de résistance, c'est une info qui, moi, personnellement, me touche. Je trouve que il fallait le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques mois, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu une sorte de destruction de statues un peu partout aux États-Unis, dans certains États. Donc, des statues de Christophe Colomb, des statues de plusieurs personnalités politiques, etc. Et,
il y a Beatball, sa statue aussi, non ?
J'ai pas de statue, donc... Non, hélas, pas encore. Donc, j'ai une photo, mais j'ai pas de statue. Apple m'a offert une photo pour nos 20 ans de collaboration. Il m'avait offert une photo. Mais maintenant, ça fait 40 depuis.
T'as plus droit à rien. Ouais. C'est ça.
Mais bon, non, en revenant à ça...
Les fameuses statues déboulonnées, oui.
Oui, donc suite à toute cette vague de statues cassées, le président avait lancé une initiative et il avait annoncé le 45e, hein, pas le 46e. On sait que c'est toi, donc... Mais le 45e président avait annoncé une initiative. Il a dit qu'il allait créer un parc national, donc un jardin des grands hommes où il y aurait des personnalités américaines, bien entendu, qui ont façonné le 20e siècle. Et donc, le décret a été signé en début de semaine, hein, donc avant la passation de pouvoir. Et dans la liste initiale, il y a Steve Jobs et il y a une petite description pour chacune des personnes et donc qui sont appelées les légendes du passé américain. Et donc, je trouve que c'est bien et que c'est important que Steve Jobs fasse partie de ces légendes. Donc, il aura une statue. On ne sait pas où va être ce parc, mais en tout cas, on pourra aller visiter. Et donc, il est en très bonne compagnie parce qu'il y a en particulier avec lui Emily Dickinson, qui est notre héroïne préférée dans les séries sur Apple TV+. Donc François connaît bien. Mais il y a aussi Walt Disney, Aretha Franklin, Miles Davis, John Wayne, Martin Luther King et quelques présidents passés, probablement Reagan et quelques autres. Il y en aura une centaine au final, mais pas dans la première vague. Donc, l'intérêt, c'est que c'est une initiative qui est totalement apolitique. Ça met en valeur des grands hommes. Ça met en valeur l'histoire de l'Amérique qui a été un tout petit peu chahutée dernièrement avec différentes théories qui remettaient en cause la date de fondation des États-Unis. C'est bien parce que il fallait le faire et c'est bien que ça a été fait.
Et donc, si je comprends bien, la statue de Jobs va se retrouver avec la statue de Martin Luther King qui était dans la campagne Think Different, sauf
erreur. Absolument, et je pense d'ailleurs qu'il y en aura d'autres. Hein. Il y aura probablement... Ils ont commencé par les Américains, hein, mais il n'est pas exclu qu'un jour ce parc contienne d'autres personnes comme Gandhi qui était aussi. Mais il y aura probablement l'astronaute qui était dans la campagne Think Different, je ne sais plus lequel c'était, mais il y avait un des astronautes des missions Apollo qui était dans campagne, parce que j'ai le poster dans mon bureau, c'est pour ça que j'y pense. Et lui est forcément américain aussi.
Est-ce que Scott Forstall aura sa statue aussi ?
À mon avis, non.
Bon, Scott Forstall, ça a été l'homme du désastre de plan au début, notamment sur iOS et... Il avait été viré d'Apple par Jobs après avoir été très proche de lui.
Martin Luther King était sur la homepage d'Apple cette semaine d'ailleurs.
Oui, puisque Martin Luther King Day, c'était lundi, et ça coïncide avec le President Day. C'est la journée du président aux États-Unis, et c'est en même temps le Martin Luther King Day. Effectivement, bon. C'est une très belle photo sur la homepage d'Apple.
Bon, j'ai encore un peu faim, Benji, non ?
Oui, moi aussi. Hein. Après ce joli plat de résistance, Célie, on pourrait passer au dessert.
Oui, mais ça va être un dessert très léger. Et j'ai mis le L et le G en majuscule parce qu'on va parler, très rapidement d'ailleurs, de LG, que vous connaissez bien sûr. Donc, puisque c'est une société qui fabrique des tas de choses, des téléviseurs, des... On pensait des téléphones déroulables, on en a parlé la semaine dernière puisque c'était mon coup de cœur. Eh bien, rumeur d'aujourd'hui, c'est juste histoire de nous énerver un peu, LG a annoncé qu'ils allaient probablement sortir du marché du smartphone et qu'ils allaient arrêter la production des smartphones dans un avenir proche parce que ça leur a coûté 4,5 milliards de dollars et qu'ils sont à un peu moins de 2% du marché et que donc ils considèrent que c'est trop d'argent pour très peu de résultats. Donc ils sont en train de réévaluer leurs priorités, mais ils ont prévu, ça peut aller jusqu'à l'arrêt complet, et en tout cas ils parlent de downsizing, mais jusqu'à l'arrêt complet du marché des iPhones, des smartphones, parce que moi j'ai dit
lapsus.
Oui, ben, c'est un peu normal. Et donc, ils disent que dans ce cas-là, en fait, ils reclasseraient les employés dans d'autres filiales de la société. Mais par contre, ce qu'ils ont annoncé, et c'est pour ça que j'en parlais aujourd'hui, parce que sinon, il n'y aurait pas eu un rapport direct avec l'univers Apple, hein, et je sais que je me serais fait taper sur la tête après. Donc, le lien existe, car ce qu'ils ont annoncé, et ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, même s'il y a déjà eu un remplaçant, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la fabrication d'écrans pour smartphone. Et je vous rappelle qu'Apple utilisait LG, mais ils ont annoncé il y a quelques semaines, peut-être qu'ils étaient déjà au courant forcément, qu'ils avaient renouvelé le contrat avec Samsung pour produire les dalles des iPhone 13. Donc les 12, une partie est produite par LG, une partie. Donc le temps qu'ils arrêtent, donc je pense qu'ils ont changé de fournisseur. Donc bon, tout n'est pas perdu, mais c'est dommage parce que les dalles LG sont très bonnes et en particulier en OLED. Vous savez que ce sont les grands spécialistes du OLED dans le monde de la télé. Et oui. Que comme les écrans iPhone aujourd'hui sont des écrans OLED, bah, c'était bien qu'on ait des écrans LG dans nos iPhones. Mais bon, après, peut-être qu'on aura du QLED ou du Quantum Dot, comme fait Samsung. Donc,
tu as raison, c'est les grands spécialistes de l'OLED, mais Samsung est le seul à faire du Super AMOLED.
C'est vrai.
Qui est un OLED particulier.
C'est vrai, qu'on n'a pas dans nos iPhones aujourd'hui. Mais tu as totalement raison.
Bon, merci Élie pour ce repas bien
léger.
Bien,
il n'y a pas de digestif. Il n'y a pas de digestif.
Mais pour le digestif, je te propose, François, qu'on prenne la direction des US. Avec Jean-Christophe. Oui. Hein, Jean-Christophe, tu nous attends évidemment. Parce que l'événement qui t'a marqué, c'est pas tellement la prestation de serment de Joe Biden et Kamala Harris hier, mais c'est l'annonce d'Apple qui a eu lieu la semaine dernière. Et ça valait le coup qu'on y revienne. À tout de suite. Vu d'ailleurs l'actu Apple, vu des États-Unis au lendemain de l'inauguration de Joe Biden, Jean-Christophe, tu voulais revenir sur l'annonce d'Apple de la semaine dernière. C'est vrai que certains l'ont trouvé un peu décevante.
Et oui, Benjamin, je voulais y revenir pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, soyons clairs, évidemment, moi aussi, si Apple avait choisi de sortir enfin un Mac M1 16 pouces, j'aurais préféré. Ensuite, parce que ça rejoint ce que je disais, si tu t'en souviens, il y a quelques semaines, lors du bilan de l'année, sur le trop-plein d'informations et de rumeurs sur notre entreprise préférée, on est tellement à l'affût que des annonces très importantes, comme celle de la semaine dernière, passent au second plan, alors que, soyons francs là aussi, l'impact à long terme de l'annonce de la semaine dernière sera, je pense, mille fois plus profond que, par exemple, le nouveau design de l'iMac qu'on attendait tous.
Alors, sauf erreur, c'est une nouvelle 100% US qui ne nous concerne pas. Donc, c'est un sujet parfait pour vous d'ailleurs, c'est vrai. Mais justement, tu voulais nous rappeler le contexte. Ça va nous aider à comprendre sa portée à cette annonce.
Oui, c'est une nouvelle 100% américaine. Comme nous le disait Ellie la semaine dernière, Tim Cook s'est exprimé sur un morning show américain. C'est les émissions les plus regardées aux États-Unis qu'on regarde avant d'aller bosser. C'est télématin, mais à une toute autre échelle. Et c'est une nouvelle 100% américaine, mais je dirais que justement, dans le lancement, on évoquait l'inauguration de Biden, ça nous concerne un peu tous. Bon, pour donner le contexte en deux mots, l'annonce elle-même, elle est simple, hein. Cook a annoncé que Apple donnait 100 millions de dollars supplémentaires au fonds Equal Justice Initiative, qu'on pourrait traduire par Initiative pour la justice et l'égalité. Mais le contexte est important. D'abord, l'annonce du projet, elle a été faite, on s'en souvient, à l'été, lors de la mort tragique de George Floyd, ce noir américain qui est mort sous les coups des policiers. Et Apple, comme beaucoup d'entreprises américaines et comme beaucoup d'Américains, avait été extrêmement choqué. Les faits l'ont montré après, hein, c'était une bavure complète. Ce George Floyd n'aurait pas dû mourir, et ça a vraiment fait un grand émoi aux États-Unis, et les citoyens et les entreprises qui, on en a déjà parlé ici, hein, il y a vraiment une culture citoyenne dans les entreprises américaines et qui veulent make a difference, faire la différence. Et c'est à cette occasion-là qu'Apple avait lancé ce fonds. Et c'est pas du tout un hasard que l'annonce arrive quelques jours après l'assaut du Capitole par, là aussi c'est avéré par des suprémacistes blancs. Donc voilà, Apple choisit, Cook choisit de prendre le contre-pied de ce tumulte qui, pour Américain qu'il soit, a évidemment résonné en dehors des frontières. On sait aussi que Cook porte en lui son enfance en Alabama, donc là aussi, l'Alabama, haute terre, malheureusement, du racisme américain. Enfin, c'est là que sont nées les lois Jim Crow qui justement créaient un mur, pour le coup, celui-là a été construit, infranchissable entre les Noirs américains et les Blancs, et avec cette difficulté pour les Noirs américains de justement accéder à l'enseignement et créer des entreprises. On en a parlé il y a quelques semaines là aussi. Ce fonds, c'est ça, cette annonce, c'est ça qu'elle dit, c'est ça qu'elle porte, c'est aider les minorités nord-américaines dans leur combat, malheureusement quotidien aux États-Unis. C'est aussi pour ça que je voulais faire la chronique là-dessus. On est très loin d'une annonce opportuniste, et on est encore plus loin d'une volonté pour Apple de détourner l'attention. Ça a été dit un peu la semaine dernière, ça a été dit ici, et je voulais revenir là-dessus parce que justement l'annonce vaut beaucoup mieux que ça et vaut beaucoup mieux que des petits calculs.
Bon, on comprend le fil directeur grâce à toi, Jean-Christophe, mais bon, on est dans iWeek, alors si je peux utiliser un ton un peu provocateur, et le Mac dans tout ça?
Et bien justement, ce qui rend l'annonce importante à mes yeux, ce n'est pas la somme. Évidemment, 100 millions de dollars, c'est le prix d'un café pour Tim Cook, toute proportion gardée. On sait aussi que Microsoft, au moment de George Floyd dont je parlais, a annoncé 150 millions de dollars pour renforcer la diversité en interne. Donc, c'est pas une guerre de chiffres. En revanche, Apple donne souvent, Apple abonde. On sait notamment que lors de la tempête Katrina à la Nouvelle-Orléans,
Ouais.
Apple abondait, Apple donnait dollar pour dollar, complétait de la même somme toutes les donations faites par ses employés pour aider à la construction de Katrina. Donc c'est pas que une histoire de dollars. Ce qui est vraiment important dans l'annonce de la semaine dernière, c'est la création de la structure Propel. Propulsé, hein, en français, et c'est la création à la fois d'un curriculum, donc de cours, mais aussi d'une structure en dur sur le campus de l'Université du Michigan. C'est amusant d'ailleurs si vous avez regardé les rendus d'architectes, on dirait un peu un Apple Store géant. Donc Apple vraiment a mis sa patte sur le projet. Et cette idée de Propel, c'est de donner des cours de développement à des minorités black and brown. On sait que les États-Unis ont pas du tout la même vision des minorités qu'en France. On n'a pas, ça peut choquer en France, c'est aussi pour ça que je rappelle le contexte. Aux États-Unis, les minorités existent en tant que telles, sont reconnues en tant que telles. On parle d'universités historiquement noires. Donc on est vraiment dans le surlignage, là où en France on ne mesure rien et on ne dit rien. Et après tout, les deux visions sont aussi légitimes l'une que l'autre. Mais en revendiquant cette notion de minorité, cette notion de cours à des minorités, Apple va vraiment très loin en disant ces gens ont accès moins que d'autres à des cours, on va les aider, et eux en premier lieu, justement pour en fait faire office de marchepied, faire office de d'échelle, pour reprendre pour le coup une expression française, l'ascenseur social. Apple fournit l'échelle à des groupes clairement identifiés. Et elle le fait à Détroit, une ville, comme on le sait, très pauvre aux États-Unis, puisque la ville a vécu de plein fouet la crise de l'automobile. Donc là aussi, tout est fléché, tout est dit, assumé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas sur un don de 100 millions de dollars, on est sur un projet industriel. Mis en place par Apple. Notamment parce que dans les 100 millions de dollars, il y a 25 millions, un quart, qui va aller à un fonds de capital risque, lui aussi fléché, lui aussi chapeauté par une personne afro-américaine, pour aider les afro-américains qui voudraient se lancer, justement, lancer une start-up dans le basée justement sur la création d'une app, sur un logiciel sur du code. Donc, alors évidemment, les cyniques dont je fais parfois partie, diront qu'en donnant des cours de Swift, Apple entretient son écosystème pour les années à venir. Oui, mais on peut aussi se rappeler que le Facebook de Mark Zuckerberg est né à Harvard, et que donc, grâce à ce fonds, grâce à cet élan qu'Apple veut mettre en place, d'abord, rien ne dit que c'est un one shot et qu'elle ne continuera pas dans les années à venir. Clairement, là aussi, on sait qu'Apple construit en dur, et donc elle construit pour durer. Donc c'est vraiment un projet, à mon sens, de longue haleine. Mais c'est aussi le moyen, justement, avec des cours et avec ce fonds de capital risque, de porter des futurs entrepreneurs et peut-être, et sans doute, des futurs projets. Peut-être que dans quelques années, donc, on dira que la nouvelle Killer App, utile, respectueuse de nos vies privées, vient d'une université historiquement fréquentée par la communauté noire, fermez les guillemets. Donc Benjamin, souvent je termine cette chronique en disant « à suivre ». Je pense que là, c'est beaucoup plus important pour celle-ci que pour d'autres. On va suivre ça, justement. On va voir quelles sont les applications développées au sein de cette université. On a parlé, il y a quelques années, de 42, pour le coup, projet franco-français, porté justement, Benjamin, par Xavier Niel, hein, qu'on connaît bien ici. Et il y a quelques semaines, moi j'ai la chance d'avoir un ami à San Francisco qui a quitté son job bien au chaud de développeur en chef chez Uber pour créer sa boîte, et il vient de lever 4 millions de dollars. C'est un bébé 42, il avait fait la première année de 42, il avait continué à porter 42 à San Francisco. Soyons clairs, il est français, il est jeune, il est blanc, il a levé 4 millions sur le circuit classique du capital risque. bon vent à lui, mais c'est aussi dans iWeek ce qu'on veut porter, c'est cette diversité de l'écosystème Apple, la diversité des apps. Et donc, Benjamin, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que on va suivre dans les années à venir, dans iWeek, la semaine Apple, les développements faits grâce à cette toute petite annonce de la semaine dernière, parce que justement, je pense qu'elle peut nous concerner tous à un moment ou à un autre, qu'on soit blanc ou pas, qu'on soit français ou américain. Et c'est ça aussi, à mon sens, l'écosystème Apple, c'est pour ça que je voulais revenir un peu dessus.
Merci Jean-Christophe, et je suis très, très content et très fier aussi qu'on soit revenu sur cette annonce qui donc n'est pas du tout une annonce mineure et dont on va probablement pouvoir suivre les implications dans les semaines, les mois et les années à venir.
Merci à vous.
Merci Jean-Christophe.
Et à suivre.
À suivre donc Jean-Christophe. Alors ce qu'on a pas mal suivi depuis 15 jours dans iWeek, c'est le CES 2021. Et au fil des jours, les news en rapport avec la domotique et avec HomeKit ont continué de tomber. On fait le point dans quelques instants avec toi François. Ma maison connectée, François, le CES 2021 100% online n'avait pas fini de nous abreuver de news en rapport avec HomeKit.
Et oui, parce que depuis la semaine dernière et notre émission spéciale CES, il y a eu d'autres nouveautés qui ont été présentées, alors en particulier chez nos amis de Philips, donc avec la gamme Hue, qui a encore eu le droit à des nouveaux membres. C'est vrai que chez Philips, ils ont tendance à en rajouter assez régulièrement. Alors il y a un élément que beaucoup de gens attendaient, c'est un petit module en fait que vous pouvez glisser directement à l'intérieur de votre interrupteur qui piloterait des lumières par exemple. Et ce petit interrupteur, vous le mettez carrément dans la prise, sous l'interrupteur, donc il faut démonter votre interrupteur. Vous mettez ce petit module et du coup votre éclairage, votre luminaire, il devient pilotable à partir de votre iPhone directement. C'est-à-dire que soit vous appuyez sur le bouton l'interrupteur pour allumer ou éteindre, ou alors directement sur votre iPhone, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre.
Donc ça, en fait, c'est pour transformer un interrupteur normal
en interrupteur HomeKit.
Ah, c'est pas mal, ça.
Et c'est très intelligent. Et pour une fois, il ne faut pas mettre obligatoirement une lampe Hue derrière, même si moi, je les aime beaucoup et François aussi. Ça permet de piloter votre installation électrique que vous avez aujourd'hui avec ce qu'on appelle un micro-module en domotique. Il y en a plein chez tous les constructeurs, mais il n'y en avait pas de compatible HomeKit. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il l'est.
Ah, vachement. Alors, il y en a sur AliExpress que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais il en existe des compatibles HomeKit. Je les ai pas testés parce que voilà, AliExpress pour l'électricité, j'ai tendance à me méfier un petit peu, mais je pense qu'à l'occasion je testerai, j'en commanderai un. Le seul inconvénient de ces produits Philips, c'est qu'une fois de plus, ils sont assez chers, vu que le micro-module doit coûter aux environs des 35-40$ le micro-module. Les produits qu'on trouve sur AliExpress généralement sont entre 8 et 10 euros.
Moi, ceux que j'ai vus sont plutôt entre 20 et 30. Ce qu'on trouve en France, hein, dans d'autres protocoles hein, comme
l'IFTT ou le etc. Ils ont aussi présenté une nouvelle version de la télécommande Hue Dimmer Switch. Donc vous savez, la petite télécommande 4 boutons qui vous permet d'allumer, d'éteindre ou de gérer l'intensité lumineuse. Donc en fait, c'est juste un redesign. Hein. Au passage, ils augmentent le prix de 5$. Et ils ont présenté aussi une grande barre lumineuse extérieure qui s'appelle Amaranth. Je trouvais le nom marrant, sans jeu de mots. C'est un éclairage qui fait quand même 31 pouces de longueur, donc c'est assez impressionnant. Les images qu'on a vues dans le communiqué de presse sont plutôt sympas. Le tarif, c'est quand même $170. Maintenant, je pense que pour des gens qui ont un extérieur avec une petite terrasse, ça peut être plutôt sympa, surtout pour l'été en l'occurrence, parce qu'en hiver, je suis pas sûr que ce soit top.
Tu es sûr du prix? Parce que moi, j'ai vu beaucoup plus cher que ça. Hein. Faudra qu'on vérifie. Mais tu as peut-être raison.
J'avais vu
des prix qui étaient vraiment prohibitifs. Parce qu'à $170, je pense que je peux en mettre pour éclairer le jardin et tout ça. Mais j'avais vu beaucoup plus cher. Hein. Mais bon, écoute, on confirmera le prix.
Partons sur ce prix-là. On va le vérifier pour la semaine prochaine, au plus tard, ou sur Twitter. iWeek News, followez-nous, comme on dit.
Yes.
Et puis, un dernier truc, tu voulais passer à quelqu'un d'autre ?
Vas-y, finis sur Hue.
Parce qu'il y a eu une dernière annonce de Hue qui est bien et pas bien. C'est-à-dire que Hue Philips, donc maintenant c'est Signify, la boîte qui s'occupe de tout ce qui est électricité connectée chez Philips et domotique, ont annoncé qu'ils supportaient le protocole Mesh. vous savez, dont on parle beaucoup dans cette émission, car il permet d'étendre la portée d'un réseau, mais que seul le pont Hue bénéficierait dans un premier temps du réseau Mesh, mais pas les objets connectés, c'est-à-dire en particulier pas les lampes. Et c'est un peu dommage parce que le pont, il n'y en a qu'un dans la maison, et généralement, il n'est pas forcément très loin d'autres appareils donc, qui font déjà du pont Mesh. Et ça aurait été vraiment très pratique s'ils avaient pu inclure ça dans les lampes où il y en a vraiment partout. Parce que là, on aurait eu un réseau incroyable. Et dans un premier temps, non. Mais il n'exclut pas de le faire plus tard, par des mises à jour logicielles.
Bon, merci Élie pour cette précision. Suite des news du CES 2021 avec toi, François.
Alors,
on va s'intéresser à une marque qu'on n'a pas encore évoquée.
Ouais, une marque qui s'appelle Vocolink. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces produits. Élie, tu les vends ou pas, non ?
Absolument. Oui, oui.
Ah. Donc, c'est une marque qui fait pas mal de produits.
L-I-N-C.
C'est ça. C'est une marque qui fait pas mal de produits différents, du type des lampes, des rubans LED. Ils ont aussi un purificateur d'air connecté. Donc c'est du matériel qui vaut quand même assez cher. Le purificateur d'air, il vaut entre 350 et 400 euros. Maintenant, l'intérêt, c'est que c'est des produits qui sont compatibles HomeKit. Et c'est vrai que dans ce type de gamme, il n'y a pas grand chose de compatible HomeKit. Et ils basent une grosse partie de leur communication là-dessus. Ils ont présenté lors du CES un humidificateur pour moins de 70 $. Donc voilà, si vous avez besoin de rafraîchir un peu l'air de vos appartements et de vos maisons. Alors moi, par les temps qui courent, j'ai juste à ouvrir la fenêtre, parce que là, actuellement, il pleut et c'est la tempête dehors. Mais pour l'été, pourquoi pas, ça peut servir, je pense.
On va rappeler que tu es à Vannes, François. Hein.
C'est ça.
Et en l'occurrence...
Ouais, bah là, je vous avoue que ça souffle bien ce soir. Et un dernier produit HomeKit qui avait déjà été présenté l'année dernière, je ne sais pas si tu l'avais vu, Benjamin, c'est un produit qui s'appelle le All Wild, with my very good English accent.
Non, ça ne me dit rien.
En fait, c'est un produit qui se présente comme un détecteur de fumée. Donc, on a déjà eu l'occasion, je vous ai présenté le détecteur de fumée Netatmo. Mais l'intérêt de ce produit-là, c'est qu'il ne fait pas que détecteur de fumée. Il détecte aussi le monoxyde de carbone. Alors ça, si vous avez par exemple une chaudière à gaz, c'est très intéressant. Il fait aussi capteur de température. Il calcule le taux d'humidité. Et il sert aussi d'alarme. Donc, l'intérêt, c'est que dans un seul produit, vous avez toutes ces fonctionnalités-là. C'est vrai que généralement, la plupart des produits, alors à part le Nest qui doit faire à la fois le monoxyde de carbone et le détecteur de fumée, la plupart des autres alarmes ne font que le détecteur de fumée, éventuellement alarme en plus. Donc un produit qui fait les 5, je trouve ça plutôt intéressant. Ça a été présenté au CES l'année dernière, ils ont annoncé les précommandes au CES de cette année. La livraison est prévue d'ici la fin de l'année. Ça vaut 150 $, c'est pas énorme, frais de port inclus pour la France. Donc voilà, si vous n'êtes pas équipé en... détecteur de fumée HomeKit, ça peut être l'occasion. Ouais. Il y avait un dernier produit que je voulais vous présenter, mais on en a parlé avec Élie en off, et il s'est renseigné depuis. Donc je vais lui laisser la parole pour nous parler de ce dernier produit.
Dis-nous, Élie.
Bah écoute, c'est un produit qui est très original, parce qu'il est dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de solutions, et c'est dans le domaine évidemment du chauffage. Alors, on a déjà parlé dans l'émission des systèmes Tado et autres, qui se base sur le principe que vous avez un chauffage traditionnel, c'est-à-dire avec une chaudière, etc. Mais il y a des maisons qui n'ont que des chauffages électriques. Et les chauffages électriques, c'est un peu compliqué à piloter. Moi, chez moi, par exemple, 100% électrique. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Et j'ai un système qui, aujourd'hui, est piloté et qui m'a fait baisser ma facture d'électricité de presque 200 € par mois, ce qui est quand même pas neutre.
Par mois.
200 € par mois.
Ouais.
C'est
presque de moitié. Je payais jusqu'à 400 €, mais la maison est 100% électrique, c'est-à-dire que tout est électrique dedans. Et l'hiver, c'était un peu cher.
C'est énorme.
Et donc, du coup, j'avais fini par trouver un système pour les piloter, ce qu'on appelle le fil pilote, c'est-à-dire qu'en fait, on met un module dans le chauffage qui le met, quand je suis à la maison, il le met en mode chauffage normal et avec un thermostat, mais quand je sors de la maison, ça le met dans un mode du style éco, où ça fait baisser la température de 2 ou 3 degrés, ce qui est beaucoup. Et puis en plus, en fonction des pièces où je suis ou je ne suis pas, ben, ça se gère comme ça, mais c'est un peu manuel aujourd'hui. Et puis c'est basé sur une centrale d'alarme et domotique que j'avais acheté à l'époque parce qu'elle était française et on en avait parlé, MyFox, sauf que c'était une start-up. La boîte a été vendue à Somfy qui, évidemment, a immédiatement arrêté cette partie-là et l'a remplacée par ses propres systèmes. Et donc, j'ai un système qui tourne, mais qui n'évolue pas. Et donc, et en plus, c'est un peu rudimentaire. Et donc là, l'intérêt de ce produit qui a été présenté au CES, donc c'est une société qui est à Londres, c'est un chauffage intelligent et HomeKit et certifié par Apple, à tel point qu'ils ont même la puce HomeKit. Donc, eux, c'est des vrais de vrais. Ils ont payé la puce. Et donc, quel est l'intérêt de ce chauffage et pourquoi j'en parle? Il y a des tas d'avantages. D'abord, c'est un produit très design, avec une face avant en vert, en quatre couleurs, noir, rouge, blanc ou gris. Ensuite, eux, ils se sont dit, puisque c'est notre premier produit, on va partir de zéro. Donc, ils ont fait un système de chauffage très économe en énergie. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport efficacité qui est vraiment très, très bon. Il est compatible d'abord HomeKit. Ils le mettent en premier. Ensuite, il est compatible Alexa et Google Assistant pour ceux qui veulent. Mais il est d'abord compatible HomeKit. Et ça, c'est une très bonne chose. Il s'installe en quelques secondes. C'est-à-dire, vous le sortez de la boîte, vous le branchez. Et il marche. Et évidemment, il y a un petit écran LED couleur qui est très joli, qui vous affiche la température de la pièce, la température que vous voulez avoir dans la pièce, qui vous affiche si vous avez une connexion Wi-Fi, car le chauffage est Wi-Fi, c'est magique. Un chauffage Wi-Fi, quel rêve. Et quand on appuie sur le bouton de mise en marche, il y a directement un QR code HomeKit. Donc, vous mettez le téléphone devant le chauffage et il est HomeKit, point. L'installation s'arrête là. Alors, évidemment, ils ont une appli à eux que vous pouvez utiliser, mais ils vous disent, bon, c'est une appli comme toutes ces applis-là qui passe par un serveur, etc. Mais par contre, si jamais il y avait une coupure Internet ou quoi que ce soit, où là, la domotique, généralement, arrête de fonctionner quand ça dépend d'un serveur, ben là, non, parce qu'avec HomeKit, vous la pilotez directement chez vous. Hein. Donc, en plus, ils le livrent avec soit un deux pieds que vous, donc ça permet de poser le chauffage n'importe où, ça devient un chauffage presque d'appoint que vous posez dans n'importe quelle pièce, mais il livre aussi la fixation au mur, ce qui permet de le mettre comme chauffage définitif dans une pièce, avec évidemment toute la programmation HomeKit. Vous quittez la pièce ou vous quittez la maison, ah ben non, avec la micro-localisation qu'on a, donc c'est très facile de savoir si vous êtes dans la pièce ou pas avec votre iPhone ou votre Watch. Vous pouvez, quand vous sortez, la géolocalisation sait que vous n'êtes pas à la maison, donc ça peut baisser la température. Quand vous arrivez à la maison, ça peut augmenter la température, bon, des choses comme ça, je vous passe. Vous pouvez même faire de la programmation, disons de telle heure à telle heure, mets à telle température dans telle et telle et telle pièce, à partir de telle heure, mais là, bon, tout ça est possible, il y a plein de choses intéressantes. Et l'intérêt ultime de ce truc-là, c'est qu'on aurait pu s'attendre, chauffage connecté, Wi-Fi, très moderne, facile d'emploi, etc., tu regardes un chauffage électrique aujourd'hui, ça vaut entre 400 et 600 euros et parfois plus quand il est connecté, plus. Et là, le prix en euros avec livraison gratuite dans le monde entier, entre 253 et 257 euros TTC.
Ah oui.
Donc moi, j'ai
été complètement soufflé. Tu peux nous rappeler la marque et le nom exact de ce
radiateur ? Oui, alors la société s'appelle Arc et le système de chauffage s'appelle Rio Heating, donc c'est fabriqué et livré à partir de l'Angleterre, ce qui, bon, pour l'instant, c'est eux qui assument les frais, donc c'est très bien, parce que maintenant qu'ils ont fait le Brexit, on se demandait si on n'allait pas payer des droits de douane.
Ah oui,
hein. Donc, c'est à voir. Et donc,
étonnant le prix, quand même.
Moi, j'étais très étonné. Et il y a deux modèles, hein, un 1500 watts, et un 2000 watts. 2000 watts, le 1500 watts, c'est pour des pièces jusqu'à 20 mètres, 18-20 mètres carrés, le 2000 watts, c'est pour des pièces 24 mètres carrés et un peu au-delà. Donc, quatre couleurs, vous avez le choix de la prise, donc UK, Europe ou États-Unis. Pour l'instant, ils ne livrent pas aux États-Unis, ils livrent en Europe prioritairement. Et les produits seront, c'est pour ça que c'était presque un produit de chronique dans le futur, parce que les produits sont livrables pour l'Europe à partir de la fin du mois de février, ce qui est pas non plus très éloigné, mais c'est pas livrable instantanément, parce que d'abord ils livrent le marché anglais, ouais. Je pense, et donc on peut déjà les commander, mais vous les aurez chez vous fin février.
Bon, bah écoute, voilà une très très bonne idée, hein, de chauffage à regarder. François, on va quand même rappeler que c'est les soldes. Elles ont commencé hier.
Oui, on a vu plein de produits sur différents sites internet, donc je tairai le nom parce que c'est mal de commander chez eux. Mais si vous n'avez pas encore démarré la domotique, je pense en particulier à plein de produits Netatmo, stations météo, des produits connectés aussi si vous avez une chaudière au gaz, des produits qu'on a déjà évoqués hein, dans iWeek. Vous avez aussi des packs de démarrage Philips Hue. Si vous avez envie de démarrer, tester, voir si ça vous plaît, je pense que vraiment profitez-en maintenant, parce que vous avez moyen de tester des produits pour moins cher que les prix d'origine.
Eh ben super François, merci pour ce dernier point CES 2021 du côté de la domotique HomeKit. On va se retrouver dans un instant, Ellie. On va aller de Shazam à Apple Music ou Spotify. Avec le tuto audio.
Exactement. Et comme on fait maintenant des chroniques partagées, je vais vous demander à tous les deux, si jamais l'un de vous, parce que comme c'est un tuto, vous pouvez le faire avec moi, si l'un de vous a Apple Music, a l'abonnement Apple Music, on pourra faire l'équivalent, parce que moi je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'affiche à l'écran lorsqu'on clique. Je peux vous dire ce qui s'affiche à l'écran lorsqu'on fait du Spotify, et ça sera la moitié. Mais si quelqu'un de vous a Apple Music, vous pourrez compléter ce que je dis.
Eh bien, on va le faire dans un instant. À tout de suite. Le tuto audio avec toi, Ellie. Et cette semaine, donc, on va apprendre à relier Shazam à son service de streaming musical, c'est ça ?
Exactement. Et ça, en deux clics. Et on aurait pu y penser, on aurait peut-être pu le découvrir nous-mêmes, mais moi j'avoue que je ne l'avais pas vu jusqu'à ce que ce tuto sorte cette semaine aux États-Unis. Et donc
C'est Mac Rumors hein, qui nous a donné l'idée de ce sujet, je crois.
Exactement, oui, c'est vrai qu'il faut citer et rendre à César ce qui appartient à Mac Rumors.
Exactement.
Donc c'est assez facile. Alors, bon. Évidemment, il faut avoir dans son iPhone Shazam, qu'il faut télécharger si vous ne l'avez pas.
J'ai Shazam, là, ça y est.
Voilà, exactement. Donc,
je vous montre à la caméra pour ceux qui ont accès à la version vidéo du podcast sur Patreon.
Voilà, moi aussi. Et donc, François, tu as Shazam, toi aussi ?
C'est lancé.
Voilà. Génial. Et donc, l'astuce consiste tout simplement à faire glisser ma musique qui apparaît en bas vers le haut. Donc, faire remonter ma musique.
Ouais.
Et là, vous avez une petite roue crantée.
Oui.
Et là, vous avez streaming, vous avez Apple Music et Spotify. Moi, je clique se connecter sur Spotify. Il me demande l'autorisation d'ouvrir Spotify. Je lui dis oui. Et là, il me dit qu'il va directement relié Spotify à Shazam. Et donc, ça s'arrête là. Sauf si je clique sur une petite ligne qui est dessous qui dit « Synchroniser les Shazam à Spotify ». Et si je fais ça, il rajoute automatiquement une playlist qui s'appelle « Shazam ». Et toutes les chansons que je vais chercher chez des amis, j'allais dire en boîte, mais malheureusement, elles sont fermées depuis un an. Donc, c'est plus
dans les bars ou dans les restaurants.
Ou dans les restaurants. Et donc, ça va dans cette playlist qui s'appelle Spotify. Voilà. Et que se passe-t-il avec Apple Music ?
Eh bien, écoute, j'ai fait glisser le petit bouton vers la droite en face de synchroniser les Shazam à Apple Music.
Oui.
Et donc, a priori, c'est le cas à partir de maintenant.
Exactement. Donc, la prochaine fois que tu vas Shazamer, tu auras probablement une petite playlist aussi. Car c'est le principe, qui s'appellera Shazam. Et donc là-dedans, il y aura toutes ces chansons que tu ne connaissais pas et que je ne connaissais pas et qui ont été Shazamées. Alors, l'avantage, c'est que avant, quand Shazam trouvait une chanson, il disait où l'acheter. Donc, on pouvait l'acheter chez Apple ou ailleurs. Tandis que là, maintenant, étant donné qu'on a des services de streaming payants, il met dans la playlist et directement on écoute la chanson. Et si on aime, il suffit de cliquer sur le petit cœur, quelle que soit l'appli, pour que ça le rajoute dans notre bibliothèque locale. Et on peut l'écouter même sans 4G ou 5G. Voilà.
C'était tout simple, mais ça change la vie. Parce qu'effectivement, moi, ça me proposait systématiquement d'acheter des morceaux, ce que je ne voulais pas faire, parce que j'ai un abonnement en streaming. Donc, très 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 bien. Ça marche chez toi, François ?
Oui, bah, en fait, je l'avais déjà activé sans m'en rendre compte.
Ah, il est fort, ça, François.
Juste avec mon esprit.
Merci, Ellie, pour ce tuto audio. Et le prochain tuto audio, ce sera la semaine prochaine, dans Air Week, la semaine Apple, le podcast. On passe à nos coups de cœur de la semaine. On commence avec toi, Ellie. Je crois que tu as une petite série à nous conseiller.
Eh oui, parce que maintenant que toute la France est sous couvre-feu, on redécouvre les joies du streaming. Bon, nous à Nice, ça faisait déjà quelque temps, donc j'ai un peu d'avance sur vous. Et je suis revenu à Netflix en attendant les nouvelles séries sur Apple TV+. Il y a eu d'ailleurs une rumeur ce matin, je profite, en disant qu'Apple va étendre l'abonnement qui s'arrêtait gratuit, hein, qui s'arrêtait fin février, qui vont l'étendre jusqu'à fin juillet, ça reste à confirmer, mais vu les confinements à répétition et autres, il semblerait qu'Apple va faire un nouveau geste pour tous les utilisateurs, ce qui serait une excellentissime chose.
Oui, donc, joli geste, ouais.
Ouais. Parce qu'on rappelle que ça avait déjà été prolongé une première fois de 4-5
mois. De novembre à fin février, absolument. Mais donc, en attendant ces nouvelles séries qui vont arriver, je vous rappelle que nous attendons avec une énorme impatience la série qui s'appelle Fondation et qui basée sur les œuvres de trou de mémoire Isaac Asimov. Donc une série produite par Apple qui va être
dont tu nous as parlé déjà.
Oui, qui va être exceptionnelle parce qu'on a un trailer. Hein, c'est pour ça que je vous en avais parlé. Non, mais c'est une série qui s'appelle Salvation. Il y a 2 saisons, donc 26 épisodes. Et le pitch en 30 secondes, il y a un astéroïde qui va venir détruire la Terre. Et il y a un savant fou qui ressemble un peu à Elon Musk, qui a des solutions. Et en même temps, c'est mélangé à House of Cards parce que, à force, le mec devient même vice-président et président des États-Unis tout en étant un savant fou. Et tout se passe mal, il y a des complots, il y a des. Bon, c'est passionnant. J'ai quasiment regardé les 2 saisons. Presque d'affilée, ce qui m'a fait pas dormir et tout, mais j'ai trouvé ça incroyable.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'avais vu il y a presque un an, je crois, à Salvation, mais c'est très bien, c'est très bien. Très, très bien. Jean-Christophe, ton coup de cœur ?
Mon coup de cœur, c'est un truc que j'ai découvert totalement par hasard, mais qui va changer ma vie au quotidien, et peut-être la vôtre.
À ce point-là
Apple a sorti en septembre, on s'en souvient, une Apple Watch rouge et une Apple Watch bleue.
Oui.
Problème, quand vous aimez les bracelets en cuir comme moi, les attaches sont blanches. Et c'est moche.
Ah.
Sur une Apple Watch bleue. Je le montre pour nos amis Patreon. Je sais pas si ça se voit.
Alors, je vois pas la tache blanche. Elle est où la tache blanche? La tache.
Ben là, elle est là.
Ah oui, ok. Non,
je la montre mal.
Non, c'est.
Bref,
oui, c'est vrai.
C'est laid. Et tous les jours, 10 fois par jour, quand on regarde son Apple Watch, on voit comme c'est laid. Et nos confrères de 925 Mac ont fait un article en disant voilà comment j'ai changé mes attaches bracelets en trouvant sur Amazon US. Puis, tiens, ça existe. Est-ce que ça existe en France? Eh bien, oui, ça existe en France, sur Amazon France. Ça vaut 10 euros. Des attaches bleues. Alors, pour l'instant, c'est un coup de cœur, parce que je les ai juste commandées. Je ne les ai pas encore reçues. La semaine prochaine, je pourrais vous dire si c'est une vraie bonne idée, si c'est vraiment bleu. Mais en tout cas, le fait que ça existe, le fait que des gens aient l'idée de vendre ces tout petits bitonio de la bonne couleur pour les gens comme moi qui veulent aller jusqu'au bout pour assortir leur bracelet en cuir à leur Apple Watch. Je trouve ça tellement Apple, tellement emblématique de l'écosystème qu'on adore et qu'on aime détester quand quelque chose nous manque, que voilà, je voulais saluer cette initiative.
C'est génial. Juste, concrètement, c'est quoi ? C'est juste une tige ? Comment tu vas la remplacer, d'ailleurs, sur ton bracelet ?
En fait, chaque bracelet a une toute petite vis qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée quand elle est à l'intérieur de la watch.
Ouais.
Et les vendeurs de ce produit fournissent, mais encore une fois, j'ai pas testé, le petit tournevis, tu tournes, l'attache se sépare en deux,
ah.
Et donc on peut l'enlever du bracelet en cuir, remettre la tâche et revisser pour qu'elle tienne. Évidemment, il faut bien visser parce que qui dit attache qui lâche, dit montre qui tombe. Donc il faut faire très attention. Voilà. C'est pour ça que c'est un demi-coup de cœur, parce que j'ai pas encore testé. Mais le fait que ça existe et le fait d'avoir découvert son existence m'a fait ma semaine et je voulais le partager avec vous.
Bon, bah génial. Donc du coup, on compte sur le test hein, de ces attaches quand tu les auras reçues.
Avec plaisir.
François, ton coup de cœur ?
Moi, c'est un coup de cœur tarifaire si vous n'avez pas encore franchi le cap de l'Apple Watch. En ce moment, avec les soldes, on trouve sur Boulanger l'Apple Watch série 4 à 167,40€. L'Apple Watch en 44 mm. Alors, peut-être que quand vous allez écouter cette émission, il y aura plus de modèles disponibles. Mais une Apple Watch série 4 à 170€, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est toujours l'Apple Watch que j'ai au bras.
Bah, moi aussi.
Même si ça fait 2 ans qu'elle est sortie, elle est encore hyper performante. Honnêtement, j'ai aucune raison de changer aujourd'hui. Donc à ce prix-là, foncez.
Ah oui, c'est vraiment pas cher. C'est le modèle alu gris-noir.
Oui, et le 44 mm en plus.
Impressionnant. Hein.
Donc la grande.
Ouais, bah ouais. C'est comme la mienne, sauf qu'à l'époque, je l'avais payé 459€, si je me rappelle
bien. C'est ça, c'était dans ces eaux-là. Ouais, donc,
Wow. Non, non. Impressionnant.
Allez-y.
Ouais, allez-y. Ça durera peut-être pas très longtemps, comme on dit. C'est la fin de cet épisode 22. Merci beaucoup de votre fidélité. Abonnez-vous au podcast, hein, c'est gratuit, petit rappel. 1,50€ par épisode, ça peut devenir le montant de votre soutien à iWeek, la semaine Apple, le podcast, pour nous aider à continuer et à développer iWeek. Pour réagir à cet épisode, pour échanger avec nous tout au long de la semaine, vous avez Twitter avec le hashtag iWeekLSA. N'oubliez pas que sur Apple Podcast, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est une note 5 étoiles et un avis bienveillant et sympa. Quelques mots à vous qui vont donner envie aux autres de nous écouter et de nous rejoindre. Alors tous à vos claviers et à vos souris. Salut les amis, à la semaine prochaine Jean-Christophe.
À la semaine prochaine Benjamin, à la semaine prochaine les amis. Même les semaines où il se passe pas grand chose, on a plein de choses à dire.
Salut François.
Salut Benjamin, bonne semaine à tous et prenez soin de vous.
Absolument, et salut Ellie.
Bonsoir Benjamin, bonsoir la team et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Ellie, j'espère que le couvre-feu reste supportable pour vous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et on sera de retour jeudi prochain. Comme promis, ce sera le 28 janvier 2021 pour l'épisode 23. Salut à toutes et à tous, ciao.